Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère profondément que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. J'espère aussi que la situation, pour complexe et difficile qu'elle soit, n'est pas trop pénible pour vous. Je vais vous parler de mon lieu de confinement et sachez d'emblée que vous me manquez beaucoup, même si je vous imagine et je vous visualise dans l'amphi. Cela me procure d'ailleurs un petit peu de chaleur, je suis avec vous. Alors reprenons, vous vous souvenez que nous nous sommes quittés, j'allais dire, au milieu du guet, au milieu de la responsabilité du commettant du fait du préposé, qui était un paragraphe 2, d'une section qui porte sur les cas particuliers de responsabilité du fait d'autrui, qui sont dans le code civil. Ces cas de responsabilité du fait d'autrui visent des hypothèses dans lesquelles une personne va être responsable pour une autre du dommage qu'elle aura causé. Nous avons envisagé en paragraphe 1 la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant mineur vivant avec eux, et nous sommes dans un paragraphe 2 sur la responsabilité du commettant du fait du préposé. On avait débuté le développement, vous vous en souvenez sans doute, par une hypothèse un peu spécifique qui était celle du Code des transports dans une loi du 29 décembre 2016 ayant introduit un article 3142-3 dans ce code prévoyant la responsabilité des centrales de réservation, responsabilité de plein droit, pour la bonne exécution des obligations nées du contrat de transport, quand bien même ces obligations auraient été exécutées par des prestataires de services. En l'occurrence, on avait visé, vous vous souvenez, j'en suis certain, la responsabilité de Uber pour les chauffeurs Uber. Dans une telle hypothèse, ce qui nous avait intéressé, c'est que le Code des transports avait pris soin de prévoir une responsabilité du fait d'autrui en considérant que la centrale Uber était liée avec les chauffeurs par un contrat de prestation de service, que les chauffeurs étaient indépendant. Et j'avais précisé que la Cour de cassation était venue très récemment modifier la donne, puisque par un arrêt du 4 mars 2020, elle a reconnu l'existence d'un lien de subordination entre Uber et les chauffeurs pour différentes raisons qui ont été énoncées par la Cour d'appel, approuvées en cela par la Cour de cassation, et notamment en raison du fait que le chauffeur avait intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société, que le service n'existe que grâce à la plateforme, à travers l'utilisation duquel le chauffeur ne constitue aucune clientèle propre, qu'il ne fixe pas ses tarifs, ni même les conditions d'exercice de sa prestation de transport, ou encore, quand on regarde l'arrêt d'appel, le fait que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier, il n'a pas le libre choix de l'itinéraire. Je pense que tous ceux qui ont déjà expérimenté un trajet dans un Uber se sont rendus compte de la force de Waze pour déterminer le trajet que suit le chauffeur Uber. Et ce n'est pas seulement parce qu'il ne connaît pas Paris, c'est aussi parce qu'il est contractuellement obligé de suivre le trajet Waze que lui impose non seulement l'application, mais également la société Uber. Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation considère aujourd'hui qu'en réalité, le statut de travailleur indépendant que l'on croyait être celui des chauffeurs Uber est, dit-elle, fictif, et qu'il y a lieu d'appliquer les règles du droit du travail, qu'il y aurait un contrat de travail, du fait que l'employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives, il serait l'employeur Uber, et par conséquent, il n'y a plus de doute sur le fait qu'il y a une relation de commettant à préposer entre la société Uber et ses chauffeurs. Nous avions débuté ce paragraphe 2 par un grand A sur les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 5 ancien, qui est devenu l'article 1242 alinéa 5 depuis la renumérotation qu'a entraîné la réforme du droit des contrats. Alors je vous propose de sortir vos codes civils pour lire l'article 1242 alinéa 5. Ah, j'en vois qui n'ont pas leur code civil. Ne me dites pas quand même que vous êtes fait confiner sans vos codes, ça serait quand même assez ennuyeux. Et je me demande même si d'ailleurs on va pouvoir tenir sans les codes civils et si ça n'est pas un motif de déplacement dérogatoire. Je vais sortir l'attestation de déplacement dérogatoire que vous avez tous. Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle. On ne peut pas vraiment dire qu'on est dans le cadre d'une activité professionnelle. Déplacement pour effectuer des achats de première nécessité. Alors là, pour le coup, il me semble que le Code civil relève des achats de première nécessité dans des établissements autorisés. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas avéré qu'il y ait des codes civils en vente chez Carrefour. Et donc, j'aimerais bien que vous puissiez retrouver vos codes pour éviter d'avoir à perdre la trace des sources sur lesquelles nous allons travailler. En toute hypothèse, n'oubliez pas que vous avez à votre disposition Légifrance qui vous donne les textes et éventuellement les différents sites sur lesquels vous pouvez trouver la jurisprudence. Légifrance également, bien sûr, mais également celui de la Cour de cassation. Revenons donc à l'article 1242, alinéa 5. Les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Et la question qui se posait dans ce grand A sur les conditions, c'était: qu'est-ce que le lien de préposition? Quel est le lien qui unit le commettant au préposé? Et c'est ce lien qui justifie que le commettant se trouve finalement tenu pour autrui, tenu pour le dommage causé par le préposé. Ce lien de préposition suppose une absence d'indépendance du préposé à l'égard du commettant dans l'accomplissement de sa mission, une absence d'indépendance qui va se traduire par le fait que le commettant, le plus souvent, va pouvoir donner des ordres, commander, diriger l'activité de son préposé. Alors le plus souvent, la responsabilité s'explique par le fait qu'entre le commettant et le préposé, il y a un contrat de travail. Et dans ce cas-là, le commettant, c'est l'employeur et le préposé, c'est, vous l'avez compris, l'employé. L'exemple le plus fréquent de lien de préposition, si je puis dire statistiquement, c'est donc le contrat de travail. Le lien de préposition se confond alors avec un lien de subordination, et c'est pour ça que j'ai redébuté ce cours en vous rappelant la solution de la Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, lorsqu'elle a considéré qu'il y avait un lien de préposition entre le chauffeur Uber et la société Uber. Mais il faut noter qu'il n'y a pas nécessairement un contrat de travail pour qu'il y ait un lien de préposition. Il y a des hypothèses dans lesquelles le lien de préposition ne correspond pas à un contrat de travail et notamment répond à différentes hypothèses factuelles, pratiques, dans lesquelles une personne est en mesure de donner des instructions à une autre. On comprend alors que le lien de préposition résulte de données qui sont très concrètes, parce que dans la situation de fait qui est à l'œuvre, une personne va se trouver au moment de la réalisation du dommage en état de suggestion à l'égard d'une autre. Elle est le préposé d'une autre parce qu'elle reçoit les ordres, elle reçoit les instructions de cette personne. Et du coup, on comprend que le lien de préposition peut correspondre à des liens occasionnels, des liens d'entraide entre voisins, des liens d'amitié. Et on peut même considérer qu'il y a au sein de la famille, par le fait même des liens de famille, un lien de préposition qui peut arriver et exister dans le cadre d'opérations très concrètes. Une personne d'une famille donne des instructions à une autre personne qui relève de la même famille. Le lien de préposition ne correspond donc pas nécessairement à un lien contractuel. Il ne correspond pas nécessairement non plus à un lien de contrat de travail. Et il peut fort bien répondre à une situation purement pratique. De la même manière que en matière de garde, on avait constaté que la garde est alternative, on peut dire aussi que l'autorité sur autrui est alternative. La question est alors de savoir, au moment où a lieu le dommage, qui a eu autorité sur le préposé. Et si j'évoque cette question, c'est parce qu'il est tout à fait possible qu'une personne soit l'employé d'une entreprise et qu'au moment où elle agit, elle se trouve placée sous l'autorité d'une autre personne, de telle sorte qu'il y ait un transfert de lien de préposition qui se soit opéré. Elle est alors sous les ordres d'une autre qui va être considérée comme son commettant et un commettant occasionnel pour la durée des opérations en cause. On le voit très bien, par exemple, dans une série d'arrêts du 18 mai 2017 de la Cour de cassation, série de 3 arrêts, parmi lesquels je vais en retenir un seul. Il s'agit d'un arrêt donc, de la deuxième chambre civile du 18 mai 2017, avec pour numéro de pourvoi le numéro 16-18-421. Dans cet arrêt, on est en présence d'un chariot-élévateur qui a été loué avec son chauffeur et qui va servir à lever des grumes de bois. Une des grumes de bois chute, blesse le locataire du chariot-élévateur et la cour d'appel va considérer que le locataire n'aura pas le droit à réparation et qu'il y a, et la cour de cassation va l'approuver, un lien de préposition entre le locataire, qui est la victime, et le conducteur du chariot qui a été loué, parce que au moment où le dommage a eu lieu, le locataire était en train de demander au conducteur de charger une grume, de s'arrêter pour le mesurage de la circonférence, je lis l'arrêt, puis de repartir pour la déposer en un autre point de stockage, et ainsi il lui donnait les ordres nécessaires à l'accomplissement de son travail de mesurage, de telle sorte qu'en réalité, le chauffeur était soumis aux directives du locataire et qu'il existait entre eux un rapport de préposition. On comprend donc que ce chauffeur, bien qu'il soit le salarié de l'entreprise qui a mis à disposition le chariot élévateur, était devenu le préposé occasionnel du locataire du chariot élévateur loué avec son chauffeur. Ce que montre donc cette décision, c'est que le transfert de lien de préposition n'est pas lié au contrat qui est conclu entre le commettant habituel et le salarié préposé habituel. Il est lié à la situation de fait qui conduit à considérer qu'une personne est en mesure de donner des instructions, de commander une autre personne, et elle en a donc la maîtrise intellectuelle, et par conséquent, elle en devient, dit la Cour de cassation, le commettant occasionnel. Le lien de préposition dépasse donc, si je résume tout ce qu'on vient de dire, le seul cadre du contrat de travail. Il suppose qu'il y ait un lien non seulement de subordination, c'est le contrat de travail, mais aussi, dans un certain nombre d'hypothèses, un lien de commandement entre le commettant et le préposé. Il s'extrait donc du seul cadre du contrat de travail pour dépasser le cadre contractuel et recouvrir un certain nombre d'hypothèses très pratiques et factuelles dans lesquelles une personne est en situation de donner des instructions à une autre. C'est là la première condition pour qu'il y ait engagement de la responsabilité du commettant. Du fait de son préposé, il faut bien être en présence d'un commettant et d'un préposé. Mais il faut aussi que cette relation puisse s'exprimer au moment même où l'acte dommageable est commis, c'est-à-dire qu'on soit bien dans le cadre du lien de préposition qui unit le préposé au commettant. Il faut donc que l'acte du préposé soit accompli dans le cadre de ses fonctions. Et j'en étais là quand on s'est quitté la dernière fois, vous en souvenez sans doute, je traitais de la question de l'abus de fonction. Alors je vais redire les choses de la manière la plus simple possible parce que c'est une question finalement assez complexe, tellement complexe d'ailleurs que la Cour de cassation s'y est souvent enlisée. Ma première remarque, c'est que lorsqu'il y a abus de fonction, on se trouve hors des fonctions auxquelles le préposé a été employé. Et dans cette hypothèse, l'article 1384 alinéa 5 devenu 1242 alinéa 5 ne s'applique pas. Donc la première remarque, c'est que l'abus de fonction exclut la responsabilité du commettant. La deuxième remarque, c'est qu'est-ce qu'un abus de fonction ? Parce que à partir du moment où il y a abus de fonction, on sait qu'il n'y a pas de responsabilité du commettant, mais du coup vous comprenez très clairement qu'il y a un enjeu très important à qualifier l'hypothèse même d'abus de fonction. J'avais donné 3 exemples. J'avais dit, premier exemple évident, un salarié est chauffeur d'un camion, il est en charge d'un transport, il est en train de livrer la marchandise au terme de ce contrat de transport, et finalement un accident survient, il blesse quelqu'un avec son camion en même temps qu'il est pendant qu'il est en train de conduire. On conçoit tout de suite que l'accident survient en cours d'exécution de ses fonctions. Il est bien dans ses fonctions, il n'est évidemment pas en dehors de ses fonctions. Tout ici suppose que ou conduit à l'application de l'article 1242 alinéa 5. Le même chauffeur rentre chez lui le soir et vous vous souvenez que j'ai dit, il découvre sa femme avec son amant Olive. Je ne sais pas si j'ai donné cet exemple, mais je me souviens que j'ai dit que finalement il assassinait sa femme. Dans une telle hypothèse, on n'imagine pas que l'employeur puisse être tenu pour le fait illicite du chauffeur rentré chez lui. D'ailleurs, au moment où il assassine sa femme, il n'a rien d'un chauffeur, il est simplement un criminel en train de commettre un acte criminel. Il n'y a évidemment pas de lien de préposition dans cette hypothèse. On n'applique pas, et ce de façon certaine, l'article 1242 alinéa 5. J'ai donc pris deux exemples extrêmes qui ne soulèvent aucune difficulté. La question de l'abus de fonction, au fond, recouvre des hypothèses qu'on pourrait dire être des hypothèses grises, des hypothèses intermédiaires, dans lesquelles on ignore a priori s'il faut ou non admettre que l'accident a été commis au moment où il y a encore un lien de préposition entre le préposé et le commettant. Il y a plusieurs exemples qui pourraient être donnés, qui témoignent de la difficulté de la qualification d'abus de fonction et qui témoignent du nombre important d'hypothèses grises intermédiaires qui existent. Première hypothèse, un employé de banque réalise des opérations au préjudice de sa clientèle. Il dérobe des sommes, par exemple. Il soustrait des sommes. On comprend bien qu'il n'a pas été employé pour ça. On comprend bien qu'il est sorti de la confiance que lui a confiée et conférée à la fois sa clientèle et son employeur. Mais en même temps, il est en train de détourner des sommes qui appartiennent à la clientèle parce qu'il est en train d'exercer ses fonctions. Deuxième exemple, un chauffeur commet des infractions, sort en dehors des heures de travail avec le véhicule qui lui a été confié pour l'exercice de ses fonctions par son employeur et il commet un dommage. Il n'est pas au temps de son travail puisqu'il est après les horaires. Et pourtant, il commet un dommage. Est-ce que, avec le véhicule de l'entreprise, est-ce qu'on doit considérer qu'il est dans le cadre de ses fonctions, en dehors de ses fonctions? Troisièmement, un employé qui est chargé du gardiennage de villa les cambriole au lieu de les surveiller. Quatrième exemple, un professeur particulier de musique, c'est d'ailleurs le cas d'un arrêt de la Cour de cassation sur lequel je reviendrai de 2011. Un professeur de musique commet des agressions sexuelles sur l'une de ses élèves dans le contexte des cours qu'il donne, qu'il dispense. Est-ce qu'on peut considérer, là encore, qu'il est dans le cadre de ses fonctions ou est-ce qu'il est sorti de ses fonctions? Et donc, vous comprenez bien que la difficulté avec l'abus de fonction dont on est en train de se parler, c'est que, et c'est surtout moi qui vous en parle, malheureusement, le dialogue est difficile, mais vous comprenez bien que on arrive à avoir d'un certain côté un rattachement aux fonctions. On voit bien que c'est le véhicule de l'entreprise, on voit bien que l'employé de banque soustrait des sommes qui ont été remises par la clientèle, on voit bien que l'employé chargé du gardiennage cambriole les maisons qu'il est chargé de surveiller, et donc il a les clés pour les visiter, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a un rattachement possible aux fonctions, et on voit aussi, dans le même temps, à l'opposé de ça, le fait qu'on se détache des fonctions, non seulement parce qu'on ne les respecte pas, mais parce qu'en plus, on est très très loin de les exécuter. Et donc toute la question est de savoir si dans ces hypothèses intermédiaires, on est ou non dans les fonctions. Je vous rappelle ce que je vous ai dit en premier point. S'il y a abus de fonction, une chose est certaine, s'il y a abus de fonction, le commettant n'est pas tenu. Mais la vraie difficulté, y a-t-il abus de fonction? La Cour de cassation a donc dû définir ce qu'est l'abus de fonction. Et pour tout dire, entre 1960 et 1988, Il y a eu 5 arrêts de ces plus hautes formations, c'est-à-dire chambre mixte ou assemblée plénière. 5 arrêts qui ont essayé de dégager les critères de l'abus de fonction. Entreprise délicate pour la Cour de cassation, parce qu'en réalité, il y avait deux approches différentes entre la chambre criminelle et la deuxième chambre civile. La chambre criminelle avait une vision très large du rattachement aux fonctions et donc de la responsabilité du commettant, et donc une vision très étroite de l'abus de fonction, tandis que la deuxième chambre civile avait une conception très large de l'abus de fonction, et donc très étroite dans cette hypothèse de la responsabilité du commettant, puisqu'elle l'admettait plus facilement son exonération. Et c'est cette opposition des points de vue que l'assemblée plénière ou des chambres mixtes ont essayé de trancher. Cette opposition de points de vue, si j'essaye un petit peu de la synthétiser, je dirais que pour la chambre criminelle, qui avait une vision très large de la responsabilité du commettant et donc très étroite de l'abus de fonction, il suffisait que l'employé ou le préposé ait trouvé dans ses fonctions les moyens, l'occasion de causer le dommage, ou encore qu'il l'ait causé au temps du travail, ou encore qu'il l'ait causé sur le lieu de travail. Il suffisait qu'on se soit trouvé au temps du travail, au lieu de travail, ou avec un objet ou des moyens conférés par le travail, pour qu'il n'y ait pas abus de fonction. Tandis que pour la deuxième chambre civile, qui avait une vision plus finaliste, elle se référait à la finalité des attributions confiées au préposé, et elle considérait que dès lors qu'on était hors du cadre des fonctions attribuées, au regard de la finalité de ces fonctions, eh bien, il fallait considérer, il fallait admettre qu'il y avait eu abus de fonction. La Cour de cassation, face à cette incertitude, a retenu trois critères que je vous propose de noter. Il y a abus de fonction et donc possibilité pour le commettant de ne pas être responsable, qu'à trois conditions qui se cumulent. Il faut en premier lieu que le préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Et ce sont ces trois critères cumulatifs qui conduisent à ce qu'il y ait abus de fonction. Le préposé doit avoir agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangère à ses attributions. On se rend compte que ces critères, ces trois critères cumulatifs, vont conduire la Cour de cassation à avoir une approche très restrictive de l'abus de fonction et donc à admettre très largement la responsabilité du commettant du fait du préposé. J'ai évoqué tout à l'heure un arrêt qui porte sur les agressions sexuelles et même le viol commis par un enseignant, un professeur de musique, dans le cadre de sa profession où il avait été conduit à être en présence d'un certain nombre d'élèves, au surplus des élèves qui avaient des handicaps, des jeunes aveugles ou des jeunes sourds. La Cour de cassation va considérer dans un arrêt du 17 mars 2011, deuxième chambre civile, numéro de pourvoi 10-144-68, elle va admettre qu'il n'y a pas abus de fonction dans une telle hypothèse et elle va considérer que, en réalité, le préposé avait trouvé dans l'exercice de sa profession, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Et on se rend compte, si vous regardez bien la formule que je viens de lire, on se rend compte que il y a bien trois conditions, et que dans ces trois conditions, le fait d'être hors des fonctions auxquelles il était employé va conduire la Cour de cassation à retenir l'approche que la chambre criminelle avait fait sienne et à considérer que à chaque fois que le préposé, trouve dans ses fonctions les moyens de sa faute, l'occasion de la commettre, ou encore lorsqu'il est au temps de son travail ou sur le lieu de travail, eh bien, elle va considérer que dans ce cas-là, il n'y a pas abus de fonction. Et à partir de cette approche-là, de ce premier critère, des trois critères qu'elle retient, elle va avoir une approche extrêmement restrictive de l'abus de fonction. Et donc, je trouve dans cet arrêt du 17 mars 2011 une première illustration, puisque le viol commis par l'enseignant en matière de musique va être considéré comme ayant été commis dans les fonctions, sans abus de fonction, et entraîner la responsabilité de l'employeur du professeur de musique. Même chose pour, dans le cadre d'un arrêt de la chambre criminelle, cette fois du 13 novembre 2018, numéro 17-813-98, cette fois la chambre criminelle va considérer que le harcèlement moral commis par un préposé entraîne la responsabilité de son commettant. Elle va considérer en effet que dans une telle hypothèse, il n'y a pas non plus abus de fonction. Les exemples en réalité sont extrêmement nombreux dans lesquels la Cour de cassation refuse d'admettre l'abus de fonction du préposé. Je résume où j'en suis. Pour qu'il y ait responsabilité du commettant du fait du préposé, il faut bien qu'il y ait un lien de préposition entre le commettant et le préposé. Ce lien de préposition dépasse le simple contrat de travail et le lien de subordination qui conduit à la qualification du contrat de travail pour recouvrir des hypothèses dans lesquelles il suffit qu'il y ait un lien de subordination occasionnelle et donc la possibilité de donner des ordres et des commandements entre une personne et une autre. Deuxième condition pour qu'il y ait responsabilité du commettant du fait du préposé, il faut que l'acte soit commis dans le cadre des fonctions du préposé, et c'est toute la question de l'abus de fonction. Et j'ai dit que cet abus de fonction avait occasionné de larges controverses au sein même de la Cour de cassation entre chambre civile et chambre criminelle, car il y a une approche très stricte de l'abus de fonction pour la chambre criminelle, dès lors qu'on est au temps du travail, sur le lieu du travail, ou bien avec un objet qui a été donné à l'employé ou au préposé dans le cadre de son travail, eh bien il n'y a pas abus de fonction et il y a donc responsabilité du commettant. Alors que la chambre civile, la deuxième chambre civile, retenait un critère finaliste consistant à se dire « mais pourquoi a-t-on employé cette personne ?» Eh bien si elle a volé, si elle a détourné des sommes, elle est hors de ses fonctions. Et donc, il y aurait abus de fonction. Là, l'Assemblée plénière a dégagé trois critères desquels il résulte qu'au moins l'un des trois, et ces trois critères doivent être sont cumulatifs, au moins l'un des trois rappelle les critères de la chambre criminelle et conduit à nouveau la Cour de cassation à avoir une vision très large de la responsabilité du commettant. Et je viens de vous citer différentes hypothèses dans lesquelles on a refusé d'admettre l'abus de fonction. Il y en a bien d'autres, mais je vous en fais grâce. Sachez simplement que, du coup, l'hypothèse d'abus de fonction se réduit et devient peau de chagrin ou portion congrue, au détriment, bien sûr, de la responsabilité du commettant, mais évidemment en faveur des victimes. Il y a une troisième condition pour que la responsabilité du commettant se trouve engagée. La troisième condition, c'est qu'il faut un fait illicite commis par le préposé. Voilà une chose qui vous apparaîtra évidente, et pourtant, elle ne l'est pas tant que ça, et elle appelle deux remarques. Je dis il faut un fait illicite, c'est-à-dire il faut une faute commise par le préposé. Ça n'est pas si évident, parce que vous vous souvenez peut-être, et je sais que vous vous souvenez sans doute, car je vous l'ai déjà dit, vous êtes extrêmement fort, vous êtes un très bon amphi, vous êtes des étudiants formidables et je me souviens très bien que vous avez retenu les solutions des arrêts Fuhlenwart et Levert. Fuhlenwart, 9 mai 1984. Levert, 10 mai 2001. Je crois que c'est 10 mai 2001, j'ai un doute. En tout état de cause, vous vous souvenez que dans ces deux arrêts, On a appris que la Cour de cassation admettait la responsabilité des pères et mères du fait de l'enfant, même lorsque l'enfant n'avait pas commis de faute, il suffisait qu'il ait commis un acte dommageable. On avait totalement objectivé cette responsabilité en se satisfaisant d'un simple acte dommageable commis par l'enfant. Faut-il qu'il en aille de même pour le préposé? Suffit-il que le préposé cause un dommage sans avoir pour autant causé une faute? La réponse est négative. La jurisprudence exige toujours de la part du préposé qu'il ait commis une faute. Le fait que le préposé doit avoir commis pour qu'il y ait responsabilité du commettant est un fait illicite, sans quoi le commettant ne serait pas tenu pour le dommage causé par le préposé. Et donc, la première observation conduit à dire, le fait à retenir est un fait illicite, là où, en matière de responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant, la jurisprudence de la Cour de cassation est allée beaucoup plus loin, admettant un simple acte dommageable de l'enfant pour engager la responsabilité des pères et mères, sans qu'il y ait besoin que cet acte répondent à la qualification de faute. Ici, il faut une faute du préposé. Quelle est la deuxième remarque? La deuxième remarque, c'est que là où, en matière de responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant, on admet que cette responsabilité soit enclenchée du fait d'un dommage causé par l'enfant gardien d'une chose, il n'en va pas de même en matière de responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Vous êtes avec moi? Vous vous souvenez que l'enfant peut être gardien d'une chose? Que c'est l'arrêt Gabillet qui nous apprend que l'enfant de 5 ans peut être le gardien d'un petit bâton avec lequel il va crever l'œil de l'un de ses camarades ou blesser l'un de ses camarades? Vous vous souvenez que de cet arrêt, on a déduit un certain nombre de considérations sur l'objectivation de la notion de garde, sur la dénaturation même des critères de la garde, usage, contrôle et direction, et que je me suis évertué à vous dire, mais comment peut-on admettre qu'un enfant de 5 ans ait le contrôle et la direction d'une chose alors qu'il ne réalise pas le danger que peut causer la chose? Mais toujours est-il que la Cour de cassation, ça ne l'a pas freiné, elle a admis que l'enfant, même le très jeune enfant, l'infance puisse être gardien. En revanche, dans le temps où la Cour de cassation admet que l'enfant peut être gardien, elle juge que le préposé, lui, ne peut pas être gardien. Vous vous souvenez, je vous l'ai appris avec une expression un peu étrange qui était l'incompatibilité des fonctions de gardien et de préposé, issue d'une décision de la Cour de cassation du 30 décembre 1936. Un vieil arrêt qui n'a toujours pas été démenti. Le préposé ne peut pas être gardien de la chose. On considère que la chose que le préposé a entre les mains, qu'il détient pourtant entre ses mains, il n'en est pas le gardien. C'est directement le commettant qui en est le gardien. Autrement dit, le commettant ne pourra donc jamais être responsable du fait d'un préposé gardien, car il est lui-même le gardien de la chose et le préposé ne l'est jamais. C'est une deuxième très grande différence structurelle avec la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant mineur. Vous allez me dire que je radote si je résume mon grand A sur les conditions. Non, je pense que vous n'allez pas me le dire et de toute manière, je ne vais pas l'entendre. Donc, je vais radoter tranquillement et je vais dire qu'il y a donc bien trois conditions pour engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé, un lien de préposition, un acte commis dans l'exercice des fonctions du préposé et non pas en situation d'abus de fonction ou hors des fonctions, et troisièmement, un acte qui constitue une faute, un fait illicite de la part du préposé. Ce qui nous conduit tout droit au grand B. Grand B, les effets. Les effets, eh bien, le premier effet, c'est la responsabilité de plein droit du commettant. Lorsque les conditions prévues à l'article 1242 alinéa 5 sont réunies, le commettant ne peut pas se dégager de sa responsabilité en apportant la preuve de son absence de faute. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, et l'on voit très bien que cette responsabilité de plein droit est une garantie au profit de la victime, puisque ça permet à la victime de disposer d'un patrimoine de plus pour agir en réparation de son préjudice, un patrimoine dont on peut penser qu'il est plus solvable que celui du préposé qui a causé le dommage. Le commettant ne pourra s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, force majeure ou faute de la victime, appréciée par rapport au préposé lui-même. C'est la seule hypothèse qui va lui permettre de ne pas subir la responsabilité de plein droit de l'article 1242, alinéa 5. Mais il faut faire une deuxième remarque qui est le fruit d'une jurisprudence complexe, initiée par la Cour de cassation à la fin du XXe siècle et développée au début du XXIe siècle, qui conduit à s'interroger sur la situation dans laquelle se trouve le préposé lui-même. Logiquement, et d'ailleurs je pense que vous ne vous êtes même pas posé la question, logiquement, on a affaire à un préposé dont j'ai dit qu'il commettait une faute ayant entraîné un dommage. J'ai bien parlé de l'acte illicite du préposé, du fait illicite du préposé. Et ce fait illicite du préposé devrait engager la responsabilité du préposé et en même temps celle du commettant dans les conditions de l'article 1242, alinéa 5. Si vous suivez bien ce que je suis en train de dire, on a deux individus, le préposé, le commettant. Le préposé, on exige de lui, dans le cadre de l'article 1242, alinéa 5, qu'il ait commis un acte dommageable caractérisé par une faute de sa part, un fait illicite. Il devrait donc être, à titre personnel, responsable de cette faute. Et dans le même temps, en raison de cette faute, commise dans le cadre de ses fonctions et dans le contexte d'un lien de préposition, on devrait avoir la responsabilité du commettant qui se déclenche sur le fondement de l'article 1242, alinéa 5. Et l'on comprend alors, avec ce que je suis en train de vous dire, que logiquement, la responsabilité du commettant réalise une adjonction de responsabilité. Non seulement le préposé est responsable à titre personnel, mais en plus, le commettant l'est également du fait de son préposé. Et on retrouve ce schéma que j'avais évoqué quand j'ai parlé un petit peu de la philosophie de la responsabilité du fait d'autrui. On retrouve ce schéma où une personne est responsable et à cette responsabilité vient s'en ajouter une deuxième, en quelque sorte à titre de garantie au profit de la victime du dommage. Ce schéma est le schéma classique de l'article 1242 alinéa 5 et donc de l'article 1384 alinéa 5 tel qu'il existait dans le code civil de 1804, et il conduisait donc la victime à pouvoir agir soit directement contre le préposé, soit contre le commettant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, et il était toujours possible alors au commettant de se retourner, de disposer d'une action récursoire contre son préposé, considérant comme ayant commis un dommage entraînant sa responsabilité personnelle. Cette dualité des responsabilités, cette simple adjonction, a longtemps soulevé la critique et elle a été de plus en plus dénoncée en doctrine, où l'on a dit, mais finalement, ce préposé, il est en train d'agir pour le compte du commettant. Est-ce qu'il ne serait pas injuste que ce préposé supporte, via sa responsabilité personnelle, les risques de l'entreprise, les risques d'une activité qu'il exerce au profit du chef d'entreprise et de l'entreprise elle-même. Et puis on a comparé, notamment avec la situation des fonctionnaires, qui ne peuvent pas voir leur responsabilité personnelle engagée pour faute de service. Et tout ça a conduit à une évolution de la jurisprudence à partir des années 90, il y a un premier arrêt qui s'appelle l'arrêt Rochas du 12 octobre 1993. Mais je voudrais surtout que vous reteniez un arrêt Côte d'Oate. Côte d'Oate, ça s'écrit COSTEDOAT. C'est un arrêt rendu en assemblée plénière le 25 février 2000. C'est un grand arrêt de la jurisprudence civile où il s'agit d'agriculteurs qui se sont adressés à une société pour répandre des produits herbicides sur leur récolte. Le traitement a été réalisé par un jour de fort vent, par hélicoptère, et à cause de ce vent, les herbicides ont été disséminés sur des fonds voisins et ont finalement endommagé des végétaux. Et la question est de savoir si le pilote de l'hélicoptère, le pilote de l'hélicoptère qui est préposé de la société, pouvait voir sa responsabilité personnelle engagée. Réponse de la Cour de cassation. N'engage pas, et je cite entre guillemets, n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Voilà une solution extrêmement importante qui conduit tout droit à conférer une immunité au préposé qui agit dans les limites de sa mission. C'est une immunité car le préposé ne peut plus voir sa responsabilité personnelle engagée du fait fautif qu'il aurait commis. Et la conséquence, c'est que alors que la victime avait deux débiteurs, le préposé et le commettant, elle n'a plus qu'un seul débiteur, le commettant lui-même, toutes les fois que le préposé agit sans excéder les limites de sa mission. Et vous comprenez que c'est même la philosophie de cette responsabilité du fait d'autrui qui s'en trouve modifiée, chamboulée, altérée. Le commettant n'est pas un débiteur de plus. La responsabilité du commettant ne s'additionne pas. Elle se substitue à celle du préposé dans une telle circonstance. Et au fond, le commettant n'est pas là pour garantir la victime. Il est là désormais, avant tout, pour garantir le préposé lui-même. Il est là pour que le préposé ne soit pas le débiteur qui puisse indemniser la victime de son fait fautif. Alors évidemment, cette solution est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante, mais elle est assez complexe et elle appelle plusieurs remarques sur lesquelles je vais finir ce cours. Oui, j'en vois qui regardent leur montre. Je suis absolument désolé, mais je suis totalement dans les temps et donc ça n'est pas la peine de regarder votre montre. C'est assez désagréable pour moi. Ça donne l'impression que vous vous ennuyez et j'espère que ça n'est pas le cas. Si c'est parce que vous avez un autre exercice à faire ou un peu de sport ou bien un cours de danse, un cours de yoga, je comprends très bien, mais j'ai fini dans 5 minutes. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que si vous avez noté ce que j'ai dit, j'ai dit que dans l'arrêt Côte d'Oate du 25 février 2000, rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation a énoncé que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Et toute la question est de savoir ce que signifie cette formule et concrètement, comment cette formule s'agence avec la question de l'abus de fonction. Pour la première fois de ma vie, je crois que je serais très heureux, j'aurais été très heureux de faire un schéma au rétroprojecteur. Ça m'aurait permis d'être physiquement avec vous et ça m'aurait sans doute aussi aidé à vous faire comprendre ce qui est assez complexe. Si j'avais pu faire un schéma, j'aurais fait un schéma assez simple parce que mes compétences sont très limitées en la matière. Et j'aurais probablement fait deux patates, un ensemble et un sous-ensemble. Et le premier ensemble, le plus grand, le plus large, c'est le cadre que j'aurais appelé les fonctions du préposé. Et puis le sous-ensemble, plus étroit, à l'intérieur du premier, le sous-ensemble, ce sont les missions ou la mission du préposé. Et donc, vous comprenez qu'il y a deux termes. Il y a les fonctions et il y a la mission. Et ce que nous conduit à comprendre ou à devoir comprendre la Cour de cassation, c'est que la mission est un sous-ensemble des fonctions. Qu'un préposé qui est dans le cadre de ses fonctions accomplit pratiquement toujours sa mission, mais que parfois il l'excède. Qu'il y a donc des hypothèses que j'aurais donc assurées, qui sont les hypothèses, vous pouvez faire le dessin à ma place, qui sont les hypothèses dans lesquelles on se trouve entre le cercle le plus étroit et le cercle le plus large, et entre le cercle le plus étroit et le cercle le plus large, si j'assure cette zone intermédiaire, je vais désigner ici une zone dans laquelle le préposé excède les limites de la mission qui lui a été impartie, mais est toujours dans le cadre de ses fonctions et ne commet pas d'abus de fonction. Il y a donc ici une zone intermédiaire dans laquelle, au fond, ici, les deux redeviennent responsables en même temps. Et donc, reprenez votre schéma. Vous avez un premier cercle plus petit, un deuxième cercle plus grand. Vous avez assuré entre les deux cercles. Si maintenant vous allez au cœur du premier cercle, du plus petit cercle, et que vous désignez ce que c'est, eh bien vous désignez ici le cadre de la mission du préposé. Tandis que le grand cercle désigne les fonctions du préposé. Car en réalité, la Cour de cassation est venue nous donner un certain nombre d'informations à la suite de l'arrêt Coste-Doate, et elle l'a donné dans un arrêt qui s'appelle l'arrêt Cousin, rendu le 14 décembre 2001. Et elle a précisé, c'est à nouveau l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a statué, elle a précisé dans cet arrêt Cousin du 14 décembre 2001 que la responsabilité civile du préposé demeurait à l'égard du tiers en cas de faute pénale intentionnelle de sa part et quand bien même cette faute pénale intentionnelle aurait été commise sur ordre du commettant. Et puis elle a ensuite précisé qu'il y a également responsabilité du préposé en cas de faute pénale non intentionnelle qualifiée, par exemple la mise en danger délibérée d'autrui. Alors je vais essayer de synthétiser ce que je viens de dire, car honnêtement je vois que vous avez décroché et honnêtement je comprends très bien que vous ayez décroché. Ce qu'il faut noter, c'est la chose suivante. C'est que toutes les fois qu'on est dans le cadre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, et pour être dans ce cadre, il faut être dans les fonctions, il ne faut pas qu'il y ait abus de fonction. Toutes les fois qu'on est dans le cadre de la responsabilité du commettant du fait du préposé, normalement, le préposé ne va pas être responsable. Il va profiter d'une immunité. C'est l'arrêt Coste-Doate. Mais cet arrêt Coste-Doate ne fait pas correspondre le champ de l'immunité du préposé avec le champ de l'application de l'article 1384 alinéa 5. Il y a donc une hypothèse résiduelle dans laquelle le préposé va retrouver sa responsabilité, va à nouveau être responsable en même temps que le commettant. C'est l'hypothèse dans laquelle le dommage a été causé par un préposé qui commet une faute pénale intentionnelle ou encore, dit la jurisprudence dans un arrêt de 2006, une faute pénale non intentionnelle qualifiée comme la mise en danger délibérée d'autrui. Dans cette hypothèse, le préposé est à nouveau tenu et le commettant l'est également. Ce qui vous permet de comprendre que, au sein du sous-ensemble le plus étroit, c'est-à-dire lorsqu'on est dans le cadre de la mission confiée au préposé, eh bien dans ce cadre-là, c'est l'arrêt Coste-Doate, dans le cadre de la mission confiée au préposé, le préposé n'est pas responsable, il profite de l'immunité, seul l'employeur l'est, seul le commettant l'est. Lorsqu'on se trouve en présence d'un préposé qui excède les limites de sa mission, sans pour autant commettre un abus de fonction. Le préposé est responsable, le commettant l'est. C'est la zone assurée entre les deux sous-ensembles, entre les deux ensembles. Et lorsqu'on l'on sort du grand ensemble pour aller sur tout le reste de votre feuille, en quelque sorte, alors on est hors des fonctions. Et dans ce cadre-là, on n'applique plus l'article 1242, alinéa 5. On est dans une hypothèse ou dans des hypothèses où seul le préposé qui ne s'appellera plus préposé, qui sera un individu lambda, sera responsable. Voilà pourquoi il y a au fond trois hypothèses distinctes que je résume. Le préposé agit dans le cadre de ses fonctions et dans les limites de sa mission. Seul le commettant est responsable. Le préposé agit dans le cadre de ses fonctions, mais hors des limites de sa mission, en commettant une faute pénale ou une faute intentionnelle, une faute pénale intentionnelle ou bien une faute pénale non intentionnelle qualifiée, eh bien les deux sont responsables. Le préposé qui s'appelle à tort préposé agit hors de ses fonctions, c'est un individu lambda. Sa responsabilité pourrait être engagée pour faute sur le fondement de l'article 1240, ex-article 1382 du Code civil. Voilà, j'en vois qui, cette fois, regarde la pendule en considérant que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. C'est vrai, c'est vrai. Mais il se trouve qu'il n'y a personne derrière et que nous avons l'amphi pour nous tout seuls, donc il n'y a pas de problème. Je voudrais, avant qu'on se quitte, et puisque personne ne fait court derrière moi, vous faire écouter une petite chanson, partir en musique en quelque sorte. C'est une chanson de Charles Trenet de 1947 qu'il a écrite en revenant de New York avec une certaine nostalgie. Ça se comprend immédiatement. Il n'y a pas besoin de vous en dire davantage, mais je vous donne la version de Benjamin Biolay.
Sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards, quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux. Tu sais, je suis qu'un petit français.